Cantique, j'aime tellement ce cantique sur l'amour de Dieu. Alors, on va se tourner ensemble. Bien, vous êtes peut-être déjà là, parce que vous savez qu'on est dans Jean 13. Et nous sommes rendus à la deuxième moitié. On l'a coupé en deux. Mais vous en avez pas, on n'y a pas fait mal, mais on a coupé le chapitre en deux. Et nous allons, juste là pour s'introduire, là, les versets 18 à 20. Je rappelle que c'est quelque chose de bon à faire. C'est bon, des fois, s'arrêter quand on lit la parole et essayer de se mettre dans l'atmosphère. Tu sais, quand on lit, mettons, on parlait de l'histoire de Joseph, de Job. Tu sais, des fois, tu lis ça, puis oh, c'est une histoire, mais il y a tout qu'un arrière-plan, il y a une atmosphère spirituelle qui est là. Puis ici, c'est vraiment tellement important. Donc, on va le lire, puis je vais prier que Dieu nous communique les choses au-delà des mots, comme juste lui est capable de le faire. Donc, Jésus ici qui parle au verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit. » Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Seigneur, je viens de le dire, je veux vraiment que tu nous fasses comprendre au-delà des mots et au-delà de juste des vérités froides, disons-le de même. Et Seigneur, fais-nous saisir l'atmosphère spirituelle qui régnait là et comment, Seigneur, ces vérités que tu as communiquées avaient un sens particulier dans ce moment très difficile et plein de confusion, en fait, pour les disciples qui ne savaient pas trop quoi faire de tout ce que tu disais et qui ne comprenaient plus. Probablement qu'il y en a qui étaient sur le bord de dire, « Ben voyons donc, je lance la serviette. » En fait, on sait que Judas, c'est ce qui est arrivé. Mais donc, Seigneur, je te prie que tu nous ouvres les yeux, le cœur, et Seigneur, on veut prêter vraiment notre pleine attention à ce que tu as pour nous dans ce temps, ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre du message, c'est « Le comble de l'indifférence ». Parce que la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Le comble de l'amour. Jésus, hein? Ça nous dit au début du chapitre 13 qu'il a mis le comble à son amour pour ses disciples. Bien ici, on voit avec Judas, qui était dans la présence du Fils de Dieu lui-même, et qui s'oppose comme ça à lui, et qui le trahit. Mais vraiment, j'aimerais qu'on voit ici, bon, on vient de considérer quelques paroles de Jésus qu'on va considérer dans le message aujourd'hui, mais Jésus, bon, le dit ouvertement, hein, que l'un de vous va me livrer. Donc, il le dit sans ambiguïté. Puis, il faut comprendre ici que Jésus, quand il dit ces paroles-là, ça suscite chez l'ensemble des disciples beaucoup de confusion, de peur, d'incompréhension. Parce que là, ils ne savent pas comment tout processer ça. C'est un anglicisme, là. Comment tout gérer ça. Hein? Ils ne savent pas comment tout comprendre ça. Et pourquoi? Parce que c'est quand même antagoniste à leur foi, parce que okay, c'est le Fils de Dieu, il est venu, puis là, ça finit de même, hein? Ça fait pas très Fils de Dieu, ça fait pas très Messie promis qui va établir le trône de David, ok? Donc, il y avait cet antagonisme à leur foi, d'où d'ailleurs les paroles de Jésus au verset 19, « Dès à présent, je vous le dis, donc il dit, je vais être trahi, puis d'ailleurs, il a cité ici le psaume 41 qui le disait, qui prédisait ça. » Donc, je vous le dis, avant que la chose arrive, verset 19, « Afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. » Donc, Jésus, encore, on voit tellement comment il adresse la foi des disciples. Il ne voulait pas juste les informer et leur dire, « OK, vous saurez. » Non, non, votre foi est mon souci premier. Il soutenait la foi de ses disciples. Il préparait leur foi à cette tempête qui commençait pas mal à brasser déjà. Mais évidemment, ça va culminer avec la croix. Puis même l'après-coup, parce que imaginez-vous, là, hein, on a-tu même que les deux disciples de Maïs? Est-ce qu'on a cru en vain? Est-ce qu'on a cru à la mauvaise personne? Et donc, on va considérer ça, puis je rappelle que quand je parle du comble de l'indifférence, évidemment, je parle premièrement de Judas, qu'on va beaucoup voir ici dans notre passage, sauf à la fin. Mais il faut comprendre que l'atmosphère spirituelle ici, là, était pas... c'est pas juste Judas qui avait un problème, puis qu'il y avait de l'indifférence dans son cœur, ou disons, c'était pas le bon mot pour toute la gang, mais oui, je pense que... Parce que Jésus leur parlait, les avertissait, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. C'est comme si il prenait pas, il ingérait pas les paroles de Jésus. Pas parce qu'il était complètement indifférent, mais c'est comme s'il n'y avait pas... la portée des paroles de Jésus n'avait pas sa plénitude à cause de, justement, leur disposition. Là, il était complètement dépassé par les événements. Non seulement parce qu'il arrivait là, parce que là, on voit Jean, il y a beaucoup de rejet, beaucoup, tu sais, puis là, c'est la Pâque, l'atmosphère est très difficile, puis ce qui est sur le bord d'arriver, hein, évidemment, avec la croix. Et c'est tout ça, d'ailleurs, l'idée de la chambre haute, il prend le temps de s'asseoir avec eux autres, puis là, de vraiment leur communiquer son cœur, s'ouvrir à eux, parce que Jésus savait, puis il les préparait. Et Ésaïe 53 prophétise ça aussi, que Jésus allait être méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Jésus vivait ça avec toute la foule et le public, mais malheureusement, il était aussi peu compris des siens, son plus proche entourage. Puis on le voit d'ailleurs, on a vu, il n'y a pas longtemps, on a considéré le geste de Marie avec le parfum, qui a embaumé à l'avance Jésus. Donc, tout cet épisode-là, ça révèle comment Jésus était seul dans sa souffrance, isolé, incompris, même par les plus proches, par rapport à la mission même qu'il vient accomplir. Et ça nous aide à comprendre le verset 20, « en vérité, je vous le dis, celui qui me reçoit... » On voit que c'est vraiment une personne, hein, ce que je suis, puis ici, qui me reçoit. Pardon, là, j'ai sauté une... « en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, ça c'est le Saint-Esprit, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. La différence, là, si on fait la différence entre un Judas puis le reste des autres, bon, on pourrait prendre Pierre individuellement, on pourrait prendre les autres, mais en général, entre Judas et les autres disciples, la différence fondamentale, ce n'est pas, entre une foi authentique et fidèle des disciples, ce n'est pas d'avoir toutes les apparences correctes, que tout est beau, parce que tu regardes, tout le monde a de l'air dépassé, puis pour ça que même Judas ne se démarque pas nécessairement, parce que tout le monde est pas mal dans la même confusion. Ce n'est pas non plus un parcours sans entrave, comme nous montre Pierre qui a renié Jésus, puis lui qui avait cette confiance en lui-même, puis Jésus s'est occupé de ça. Non, la différence fondamentale entre un faux disciple et un vrai, quelqu'un qui a la foi authentique et quelqu'un qui ne l'a pas, c'est la persévérance sur le chemin étroit, contre vents et marées. Parce que là, c'est ça, il y avait des grands vents, des marées inattendues, et les paroles de Pierre se sont prouvées vraies. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, on passait par des différents détours, mais on a toujours fini avec Jésus. Et c'est ça, la marque d'un authentique disciple de Jésus. Et ça m'amène à considérer avec vous trois produits ou trois fruits du comble de l'indifférence. D'abord, on commence avec du négatif, parce qu'on va voir tout ce qui arrive avec Judas. Dans les versets 21 à 30, ça va être vraiment le cœur du message, on va passer le plus de temps là-dessus. La confusion de l'indifférence, ou la confusion que produit l'indifférence. Okay? D'abord, on voit au verset 21, Jésus ici, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » C'est spécial que Jésus ici dit qu'il était troublé, alors qu'au verset 18, ça dit qu'il connaissait ceux qu'il avait choisi. Donc Jésus n'était pas surpris par le fait qu'il était trahi, parce que même c'est selon les Écritures que lui-même a cité, ok? C'est comme s'il y avait un choc entre l'omniscience de Dieu et son amour. Jésus n'était pas troublé parce qu'il était surpris, puis « Ah non, là ça arrive! » C'est que il était là au moment de vivre, là où est-ce qu'un des intimes que Jésus aimait Judas, vous allez voir, on va le voir à travers le passage, il l'aimait sincèrement, pas juste pour bien paraître, c'est vraiment authentique. Donc, il était troublé d'arriver à ce moment-là où est-ce que son amour allait être rejeté comme ça par Judas. Parce que même si Jésus savait exactement ce qui allait arriver, puis connaissait les Écritures aussi qui prédisaient ce qui allait arriver, il était quand même touché émotionnellement parce qu'il l'aimait, Judas. Okay? Lui, il n'était pas au comble de l'indifférence comme Judas. Lui, il aimait Judas. Puis ça nous dit, hein, au verset, à la deuxième partie du verset 2, du verset 21, qu'il dit expressément, en vérité, donc ça c'est vraiment, c'est une certitude, c'est une vérité inchangeable, l'un de vous me livrera. Et donc Jésus, comme ça, en révélant qu'il connaissait son traître, démontre qu'il est au contrôle des événements. Donc, il n'était pas surpris, puis il n'est pas « Oh, je subis ceci et je ne sais pas ce qui arrive. » Non, il était totalement au contrôle de comment il réagit, qu'est-ce qu'il va dire là-dessus. Okay? Et c'est un bon rappel pour nous, lorsque la peur, il y a des choses des fois qui nous font peur, les circonstances, les relations. Lorsqu'on est face à l'incertitude, c'est bon de se rappeler que Dieu est au contrôle, puis lui, il n'est pas surpris. Verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Et oui, c'est ça. Personne ne savait ce qui arrivait. Puis même, on apprend dans Matthieu 26, 22, qu'ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Ils se demandaient vraiment, là, c'était qui? Il n'y avait pas d'idée. Okay? Donc, personne ne soupçonnait Judas plus qu'un autre. Okay? D'où la confusion. La confusion de l'indifférence. Okay? Ce qui arrivait dans le cœur de Judas avait des conséquences sur tout le monde. Lui, il savait, mais personne d'autre le savait. Ben, sauf Jésus, évidemment. Moi, je pense qu'il se demandait ce que Jésus voulait dire. Non seulement de qui il parlait, mais ce qu'il voulait dire. Est-ce que c'est littéral, ce qu'il dit là? Est-ce que c'est juste pour un temps? T'sais, c'est-tu quelque chose de permanent? C'est quoi qu'il veut dire là? C'est quoi les implications de dire « L'un de vous va me livrer? » Puis, imaginez-vous, tout le petit hamster, là, ça devait vraiment rouler vite dans la tête de chacun. OK? Donc, il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, de qui il parlait. D'où l'importance de comprendre ici, on va s'arrêter là, la dynamique qu'on voit dans les versets 23 à 28. OK? On va prendre le temps de décortiquer ça. D'abord, début du verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait. Ça parle de qui, ça?
De Jean.
De Jean. C'est unique à Jean. Jean réfère à lui comme ça. OK? Donc, l'auteur de l'Évangile réfère à lui comme étant le disciple que Jésus aimait. On l'a ici dans la chambre haute, on l'a dans 19-26 à la croix, on l'a dans 20, chapitre 20, verset 2, au tombeau, puis on l'a à 21-20, okay, à la fin complètement, lorsque Jésus est ressuscité. Donc, à des endroits vraiment clés, là, t'sais, chambre haute, croix, résurrection, tombeau et résurrection. Et cette expression-là, avec laquelle Jean s'identifie, je crois que ça nous communique qu'il se glorifiait, puis là, je ne veux pas le prendre dans un sens de se penser bon, mais il se glorifiait de l'amour de Jésus-Christ. Pas d'une façon égocentrique, mais dans une reconnaissance et une humilité qui reconnaissait qu'il y avait quelque chose de vraiment unique entre lui et Jésus. Okay? Le disciple que Jésus aimait. Je ne pense pas que c'est une expression « Ah, voyez-vous, je suis meilleur que vous, Jésus m'aime, puis vous, il ne vous aime pas. » Je pense qu'il voulait juste référer au fait qu'il y avait cet amour unique entre les deux. On va voir, il y avait un prix à ça. Là. Je m'en viens, là, mais... Donc, ça, c'est l'expression. Ensuite, la deuxième partie du verset 23, ça dit... donc, Jean, okay, le disciple que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. J'ai dit ça souvent dans Jean, mais voulez-vous que je vous explique, c'est quoi ça veut dire? Il était-tu de même, là? Puis, tu sais, Jésus est comme ça, puis il est comme... Moi, je l'ai imaginé longtemps de même, mais quand on étudie comme une fois les Écritures, puis l'époque, on comprend. D'ailleurs, s'il y en a qui ont écouté le Chosen ou les films de Jésus de Nazareth, souvent, sont tous assis à une table sur une chaise comme nous autres, puis c'est pas ça. La confusion vient de là. OK? Fait, si vous restez avec moi, en tout cas, j'espère que vous allez rester, je vais vous expliquer ce qu'il y en a exactement. À l'époque, les gens, puis un repas comme ça, c'était fait où est-ce que c'était une table en U, OK? Puis c'était pas avec des chaises, les gens étaient. Il était le même, là. Puis là, je ne vais pas le faire à terre, là. J'aurais de la foi un peu, mais avec les jambes comme ça. OK? Donc, c'est bas. Les gens sont assis comme ça sur leur sont à côté sur leur coude gauche. Puis là, ils mangent comme ça. OK? C'était typique de l'époque. C'était encore même typique en Orient des tables basses. OK? Donc là, tu mets tout le monde de même. OK? Avec un U. OK? Moi, j'ai fait un petit dessin ici, là. Là, tu mets de même. Mais là, quand tu arrives ici... Tu fait que la tête d'un est à côté de la tête de l'autre. Parce que sinon, les autres, c'est plus les pieds, puis son torso, sa tête sont plus loin de toi. Là, mais là, ça nous donne l'information. Il y a des gens qui sont de ce côté-là du U, mais au bout du U, il y a trois personnes. Jésus au milieu, Judas à droite, ma droite, puis Jean à gauche. Okay? Donc, vu qu'ils sont assis de même, Jean, c'est juste de par la façon qu'ils sont assis puis comment ils sont à côté, c'est vraiment proche, tu sais, ils sont comme ça, ça donne qu'à cause de la façon qu'ils sont assis, il est proche de tu sais, ça dit pencher sur sa poitrine, c'est comme si c'était approché, tu sais. Fait que c'était pas comme une espèce d'affaire, là, il va se... Tu sais, des fois, on voit ça, là, des dessins, puis... OK? Vous êtes peut-être pas d'accord avec moi, peut-être que vous avez aucune idée de quoi je parle, mais vous le regardez par vous-même, moi, c'est vraiment comme ça que je comprends le mieux le passage. OK? Ou est-ce que c'était cette façon-là de disposer les choses? Puis là, ça nous aide à comprendre. Il était très proche, OK, de par la façon qu'il était assis ou incliné, OK? J'ai-tu perdu ou on se voit des petits dessins? J'avais pensé faire venir du monde en avant, mais ça va être trop mêlant, là. Puis vous regardez, tu sais, avec Google, faites pas ça maintenant, là, mes frères, tu sais, pour sûrement que vous allez voir une image à quelque part, là. En tout cas, je veux pas prendre tout le temps, mais je veux prendre le temps de l'expliquer pour ensuite enchaîner avec ce qui suit. Jean était, de par ce qu'on comprend là, à la droite de Jésus, qui selon la tradition, ce qu'on nous dit, c'était la deuxième place d'honneur, et Judas était à sa gauche, première place d'honneur. OK? Donc là, c'est ce qu'on a là quand on voit ça. Donc Jean se penche, OK, verset 24. Simon-Pierre lui fit signe. Donc Simon, il regarde Jean, puis un genre, je ne sais pas trop, clin d'œil ou quoi. Puis il lui demande, « Hey, demande à Jésus c'est qui? » OK? Il fait signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. OK? Puis pourquoi qu'il demande? Parce que comment il sait que c'est le plus proche? Tu sais, il y a cette proximité. Puis aussi, bien évidemment, il y a aussi Pierre, Jean-Jacques, c'est aussi des disciples qu'on voit qui sont spécialement proches, mais vu que de par sa position. Donc, il fait signe. Parce que Pierre n'aimait pas ça être dans le doute. Il n'aimait pas ça être dans cette zone-là. Hey, clarifie ça, il faut qu'on reste un problème là. Okay? On voit un Pierre qui est tout à fait Pierre. Là. La pierritude de Pierre est très claire ici. Et là, Jean transmet le message, verset 25. Et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Donc, vous voyez, il était déjà quand même assez proche, fait qu'il fait juste, « Hey, c'est qui? » Il se parle proche de même. Et là, remarquez, verset 26. Tu sais, là, la semaine dernière, quand on parlait, là, lave-moi la bouche, c'est important de voir les gestes, comme, tu sais, Pierre, il a dû faire ça de même, là, tu sais, la tête, puis j'avais expliqué ça, mais là, il aussi, là, il se penche, OK, il faut voir son proche. Mais là, regardez ce qui se passe, verset 26. Jésus répondit, donc, Jésus parle à Jean. C'est lui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Le comprenez. On va voir par la suite des choses qui font un geste très clair, mais personne ne comprend. Ça veut dire que c'est juste Jean qui a compris. Jésus l'a chuchoté. On ne peut pas expliquer ça sans que la seule personne qui le savait, c'était Jean. Parce qu'il a dit, « Hey, ça va être celle-là que je trempe. » Là, il trempe ça, puis il le donne même. Puis tout le monde se demande encore... Ça se pourrait pas, là, comprenez-vous? Donc, il l'a dit comme ça. Donc, Jean se fait demander par Pierre. Il demande à Jésus comme ça. Jésus, il dit pas fort. Fait que Jean était au courant, mais pas les autres. Là, c'était bien intéressant parce que là, Jean, ça le met dans une position unique. Là, Jean, il s'est fait ouvrir le cœur de Jésus d'une façon que les autres, OK? Que les autres ne l'avaient pas, là. OK? Excusez, verset 26, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Donc oui, Jésus le dit, OK, tremper le morceau, il dit ça dans l'oreille. Puis pourquoi c'est important que Jésus le dise pas? Bon, il y a les plans de Dieu que là, on ne peut pas tout expliquer, mais l'effet surprise aurait été perdu, puis c'est pas que Jésus voulait faire une surprise, c'était pas quelque chose de plaisant. Mais tu sais, ça faisait partie aussi parce que justement, là, celui qui livrait, il fallait qu'au moment que ça arrive. Parce que sinon, qu'est-ce que vous pensez qui serait arrivé? Tout le monde aurait voulu essayer d'arrêter ça, mais il fallait que ça arrive de même. Okay? Fait qu'il y avait cet aspect-là. Mais plus que ça, Jésus voulait montrer à Judas qu'il l'aimait, parce que il voulait lui donner une dernière chance de se repentir. Donc, il n'a pas dit à tout le monde, hey, ça va être Judas. Fait que là, Judas, il est comme vendu. Ben oui, c'est moi. Puis là, comprenez-vous? Il ne voulait pas l'exposer. Ça lui donnait du temps encore pour se repentir. Donc, c'était aussi pour le bien de Judas qu'il faisait ça. Autrement dit, Jésus voulait vaincre le mal par le bien. Le mal de l'indifférence dans le cœur de Judas face à Jésus, par le bien, par son amour. OK? Comme ça dit d'ailleurs dans Romains 12. Versets 20 et 21. « Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Jésus accomplit ça parfaitement ici. Et là, une petite application ici. Parfois, nous nous imaginons, OK, c'est l'imagination, nous nous imaginons que quelqu'un est contre nous, puis bon, ça peut être vrai, ou des fois, c'est vraiment quelqu'un qui est contre nous, mais souvent, notre réaction, c'est que ça va nous rendre suspicieux, apeurés, puis vous savez de quoi je parle, là, là c'est comme, oh, malaise, OK? Situation de même, ça arrive, n'est-ce pas? Ben, Jésus savait que Judas était contre lui, OK, qui voulait le livrer, mais pourtant, son amour et sa bonté envers Judas n'ont fait qu'augmenter. Ça ne l'a pas désorganisé, ça ne l'a pas apeuré. Donc, on voit que Jésus, OK, dans le chapitre 13, avant le repas, là, Jésus a fait deux choses majeures. Avec ce qu'on a vu la semaine dernière, il a fait le plus grand acte de service avant le repas. Il a lavé les pieds. Puis on a vu, là, rappelez-vous, la semaine dernière, c'était un type de la croix, là. Tu sais, il se dépouille comme Jésus s'est dépouillé, puis il s'abaisse comme un serviteur, puis il lave les pieds. Vous rappelez-vous, on a vu la symbolique de laver les pieds comme ça, comme ça pointe vraiment à la croix. Bien ici, dans la deuxième partie du chapitre qu'on considère aujourd'hui, on voit sa plus grande démonstration d'amour pour ses ennemis avant la croix. Donc, deux préfigurations de la croix. Son amour pour les siens et même pour ses ennemis. Voyez-vous comment le chapitre nous pointe à ce qui est juste sur le bord d'arriver à la croix? C'est des ombres de ce qui allait être accompli pleinement sur cette croix. Et on continue. Verset 27, il a donné le morceau, puis il dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. On va revenir sur ça dans un instant. Ah, comment ça que... Oui. Parce que, voyons, comment ça, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Oui, OK, je vais vous donner un commentaire de plus là-dessus. On va lire 27-28 parce que je veux, il y a des choses que je veux vous expliquer d'abord. Donc, il dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il disait cela. OK? Donc, Jésus est clair avec Judas, mais encore là, les autres ne comprennent pas. Personne ne comprend, sauf qui, à part Jésus? Jean comprend, je l'ai fait dire. C'est pour ça que je veux parler de Jean d'abord. Là. Jean, il savait, mais au lieu de prendre les choses en main, il aurait pu s'opposer à Judas. « Hey, wow, là, Jean, il va faire... » OK, il a gardé ça. Pour... Imaginez-vous, là, Jean, dans quelle espèce de malaise et de position il se retrouve. Il est dans le secret du Seigneur, mais ouf, ça ne le met pas dans une position confortable, là. Laisser le contrôle à Jésus dans la situation, ça voulait dire de souffrir énormément. L'intimité spéciale qu'avec Jésus, il avait un prix. Il était participant aux souffrances de Christ. Et ils font, hey, oui, l'intimité avec Jésus, je veux ça, c'est beau. Oui, mais il y a un prix. Là, il souffrait avec Jésus de voir tout ça. Puis, ah, c'est Judas. Imaginez-vous comment il se sentait, là, Jean. Là. Si les autres étaient à l'envers, lui, il devait l'être encore plus parce que là, il savait. Puis... Fait que c'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté à ça, mais c'est vraiment spécial ce qui se passe là. Là. Donc oui, il y avait une relation intime qui enlevait la confusion. Lui, il n'avait plus de confusion, il savait c'était qui. Mais ça augmentait la souffrance aussi. Et il y avait une explication rationnelle. Verset 29. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » et lui commandait, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Ah oui, il y a une explication. Ça doit être à cause de ça. Mais je reviens sur le verset 27, c'était clair, ça dit « Satan ». Il est impliqué. Puis on le voit dès le début, là, parce qu'au début du chapitre 13, on dit que Satan avait mis dans le cœur de Judas, puis ici, il est rentré dans Judas. Donc, on voit qu'il peut avoir une explication rationnelle, mais ultimement, la vraie explication était spirituelle. Ça vous fait penser à quelque chose? De nos jours, souvent, on va trouver des explications. Tu sais, on est dans un monde rationaliste. Hein? On veut tout expliquer par ce qu'on voit, par les sens et tout ça. Mais derrière la réalité qui frappe aux yeux, il y a une réalité spirituelle. Là, même rationaliser les réalités spirituelles. Mais ça ne change pas qu'il y a une réalité spirituelle qui est là et qu'on ne peut pas juste essayer de faire comme si ça n'existait pas, juste en expliquant avec ce qu'on voit de nos yeux. Et là, parlons un peu de Judas. Okay? On a parlé de Jean, on va parler de Judas. Ça nous dit que Satan a eu accès au cœur même de Judas, puis qu'il a rentré dans Judas. Comment? Écoutez bien. Par le mensonge, parce que Satan est menteur. Okay? Puis meurtrier, parce que ça l'a mené finalement à la mort de Judas et de Jésus. Mais bon, pour Jésus, c'était pas évidemment la fin de l'histoire. Donc, Satan a eu cet accès à Judas par le mensonge qui va un peu comme ceci. Satan a réussi à convaincre Judas que Judas, c'est toi qui es au contrôle, puis Jésus, il faut qu'il fasse face. Ça se dit mal, ça, il faut qu'il fasse face. Ça fait deux faces. Il faut qu'il fasse face à ce que toi, tu veux. OK? Donc, autrement dit, tu es capable de changer le cours des choses. Moi, je pense que Judas avait probablement des bonnes intentions au début, parce que... Mais vraiment, ça se peut pas que le Messie... Fait, il a pris les choses en main. Puis là, non, ça va pas arriver de même. Fait que là, mais c'était tout du mensonge. Puis dans le fond, il voulait contrôler au lieu de laisser Dieu être au contrôle comme il l'était déjà. Et donc, ce qui est arrivé ici, là, dans le monde spirituel, Judas vivait un mensonge, était esclave du mensonge et donc esclave de Satan. Et c'est encore vrai de nos jours. Si la vérité nous a franchis, puis que Jésus, c'est la vérité, le mensonge nous a servi, puis Satan est le prince du mensonge. Fait que vraiment, on fait l'équation, là. Vérité, on y croit, liberté en Jésus. Le mensonge, on y croit, esclavage de Satan. On se fait un esclave de Satan. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime pas mal mieux Jésus que Satan. En fait, je ne veux rien savoir de Satan. Là. Fait que ça nous fasse réfléchir quand on est prompt à vouloir croire des mensonges. Puis les mensonges, là, c'est tellement ficelé. Puis les plus beaux mensonges, c'est ceux qui sont les plus subtils et qui sont c'est les plus efficaces, c'est ceux qui ont l'air les plus beaux. Son marketing, son super vendeur. OK? Et d'ailleurs, c'était ça aussi. Là. Ben voyons, là, ça se peut pas, là. Hey, le Messie, là, ça va être un roi qui règne. Puis non, c'est pas le bon. Fait que là, imaginez-vous tout ce qui se passait aussi dans le cœur, puis la tête de Judas. Puis Judas, donc, rejetait l'amour que Jésus lui donnait. Il rejetait son offre de repentance et il permettait du même coup, ou comme diraient les Français, du coup, il permettait à Satan de prendre le contrôle. Mais c'était pas... Là, on voyait la culmination, mais ça a commencé bien avant. Et comme au verset 27, puis aussi dans Matthieu 26, 25, on peut lire, « Judas qui le livrait... prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Ça aussi, ça s'est pas dit ouvertement, parce qu'encore là, tout le monde l'aurait su. Mais même quand Jésus aussi, verset 27, dit, « Ce que t'as à faire, fais-le promptement. » Jésus clairement il a fait savoir qui savait. Donc, Judas, tantôt, il y avait des face-face, là, mais là, c'est Judas savait que Jésus savait. Tu sais, Jésus a fait connaître, je sais exactement ce que tu vas faire. Là. Je sais ce qui arrive entre toi et Satan. Là. Je suis au courant de la situation. Donc, son plan à Judas, là, était peut-être secret devant les autres disciples, mais pas devant Jésus. Puis en plus, pour ajouter à tout ça, Judas savait que Jésus l'aimait. Parce que le geste qu'il fait de tremper le pain C'est un geste d'honneur. Il est à la place d'honneur, la première place d'honneur, puis le fait de tremper comme ça, puis de donner, c'est pour honorer quelqu'un. Fait que voyez-vous comment on voit dans les gestes, dans les paroles, que Jésus montre son amour, donne l'occasion de se repentir, il l'honore devant les autres. C'est comme si, tu sais, c'était sur un plateau d'argent pour Judas de se repentir. OK? C'est riche en leçons ce qu'on voit aujourd'hui. Je prends mon temps parce que je veux qu'on digère ça comme il faut. Donc, malgré tout ça, malgré toute cette grâce, toute cette ouverture qui était devant lui, il a fermé son cœur à Jésus qui ouvrait la porte grande devant lui pour se repentir. Et j'aimerais que vous remarquiez au verset 30, Judas ayant pris le morceau, se hâta de sortir, il faisait nuit. J'ai vu ça dans un commentaire, mais je n'avais jamais remarqué, mais même le goût de la faveur, de la grâce de Dieu, tu sais, ce geste d'honneur d'avoir trempé, il partait, il l'avait encore dans la bouche. Il y avait même une mémoire olfactive de goût, comment on appelle ça? En tout cas, hein? Ouais. Il pouvait se rappeler de la faveur qui était, puis tu sais, en s'en allant. Fait que voyez-vous, c'est quand même spécial que c'est pas juste demain une parole qui s'envole, même dans sa bouche, dans son corps, il pouvait ressentir cette offre de grâce à laquelle il tournait le dos, là. C'est vraiment, mais vraiment spécial. Donc, il y a quelque chose d'important. Ça nous montre que Judas est la preuve vivante que l'homme déchu a besoin de beaucoup plus qu'un bon exemple de Jésus. Parce que Judas, là, avait Jésus, l'exemple, l'enseignant parfait, là. Il était avec tous les autres, là. Mais il est quand même demeuré perdu, il est resté dans son incrédulité. Fait que, il y a quelque chose de vraiment puissant là-dedans, de dire comment l'homme perdu est vraiment perdu, puis que c'est par la grâce qu'on est sauvé, puis que si Dieu ne nous avait pas aimé le premier, je veux dire, c'est ça. Imaginez-vous Judas, là, on ne peut pas dire que quelqu'un peut avoir plus une chance que lui, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Puis il a continué à fermer son cœur. Ça nous amène au verset 31 et 35, la glorification contre l'indifférence. Puis là, j'ai vraiment... la majorité du message est passée. Mais je veux qu'on considère ici Jésus qui contre-attaque. Okay? Donc, il y avait la confusion, tout le monde est mêlé, les gens ne comprennent pas ce qui arrive. Mais là, Jésus, il se met à parler à ceux qui restent. Fait que là, cette indifférence-là, qui est l'atmosphère générale qui est là, Jésus adresse ça. D'abord avec la glorification contre l'indifférence. Regardez versets d'abord 31 et 32. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit... Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. En deux versets, on a cinq fois le mot glorifié. Puis ça, ceux qui prennent des notes peuvent mettre à côté Jean 12, 23, parce que Jésus parle de sa mort comme son heure de gloire. Donc ici, Jésus réfère évidemment à sa mort, quelle est son heure de gloire, où est-ce que Dieu est révélé pleinement, l'amour de Dieu et sa justice est révélé par la croix, ok? C'est ça ici que Jésus réfère. Mais on voit que c'est toute une séquence, parce qu'il parle même comme au passé, le Fils de l'homme a été glorifié, c'était comme le début, là, le processus est entamé, ok? Celui qui allait le livrer est allé, ben là, il y avait une chaîne irrémédiable d'événements là, qui était en cours. Là, il n'y avait plus de retour en arrière. Fait que, il y avait une séquence qui était entamée, bon, qui allait amener à l'arrestation, le procès, la condamnation, évidemment, la crucifixion. Et là, on avait ce commencement, et c'est bien trop, mais ça allait culminer en l'ultime mal, c'est-à-dire le Fils de Dieu, saint et bon et vrai, qui était crucifié comme un criminel. Mais ça allait aussi donner l'ultime transformation du mal en bien. Avec justement cette croix qui nous est si chère, qui nous est toujours chère. Et donc, Jésus allait révéler son amour comme ça n'avait jamais été fait auparavant. Et sa vie tout entière, bien qu'elle soit parfaite, pouvait pas... Puis tous ces mots, tous ces beaux discours ne pouvaient pas égaler ce que la croix allait communiquer. Les mots et même les actions que Jésus a faites, les miracles et tout ça, étaient limités comparativement à la gloire de la croix. La gloire, c'est la plénitude de la révélation de Dieu. Jésus s'est révélé beaucoup, là, en parole et en acte avant, là, mais la croix, C'était la gloire ultime. Et ça nous amène donc au verset 33. « Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. » C'est la seule place dans les évangiles où Jésus, puis c'est drôle parce que peut-être que Jean qui prend cette expression-là dans son évangile, il a dû prendre ça de là, j'imagine. Jésus les appelle ici « petits-enfants ». Ce n'est pas du dédain « hey, les petits gars », puis non, je pense qu'il y a vraiment ici une expression qui nous montre la douceur, les soins de Jésus, mais aussi qu'il reconnaissait que les disciples étaient dépendants et, oui, immatures. Tu sais, qu'il leur parle, oui, comme des petits-enfants, parce que c'est vraiment... Puis n'est-ce pas aussi ce que nous sommes? Quand on se compare à Dieu, là, on est quand même... On est dépendant, on comprend pas vite, on fait les choses un peu tout croche, tu sais, comme un enfant, mais il dit, hey, « OK, Cédric, tu fais la vaisselle aujourd'hui. Ça sera pas comme quand maman le fait. » Excusez de prendre l'exemple de même. Là. Je dis ça au hasard, mais peut-être que je me trompe pas. OK? Donc, c'est ça, OK, quand on s'assied en avant, on devient l'exemple. Vous êtes souvent les deux premiers exemples, hein? Les deux premiers bancs, vous êtes les exemples de mes... les objets de mes exemples. Et donc, évidemment, tout ça aussi est reçu comme un choc, parce qu'il dit, je suis pour peu de temps avec vous autres, je l'ai dit, là ça arrive, fait que, il y a tout qu'un choc là-dedans. Et ça n'allait pas du tout selon leurs attentes puis leurs plans. Il n'y en a pas un là-dedans qui dit, ah ben oui, ok, c'est ça, c'est exactement comme j'avais pensé, oui, là tu t'en vas, tu vas mourir. Pourtant, il l'avait dit, là, tu vas mourir, mais... Ça ne computait pas, comme on dit en bon québécois. Peut-être que Jean, ça a commencé à travailler différemment. Puis on sait aussi que Marie, hein, qui a ouin. Fait qu'il y en a qui étaient, on va, je ne vais pas le dire demain, ça fait un peu élitiste, mais qui étaient un peu dans le conseil secret de Dieu. Puis il y a quelque chose là-dessus, ce qui les préparait à ce grand choc. La meilleure préparation, c'était leur intimité avec Dieu. Ceux qu'on voit comme ça, qui se démarquent du lot, c'est Jean et Marie, qui passaient du temps avec Jésus, qui étaient proches de Jésus, puis qui partageaient ses souffrances, parce qu'on a vu, oui, ici, Jean qui partage sa souffrance, mais imaginez-vous, Marie, pour qu'elle ait cette compréhension de, non seulement la mort, mais tu sais, que c'était fait, elle, OK, je fais ça pour ton... pas embaumement, là, ensevelissement. La meilleure préparation qu'on a, peu importe c'est quoi, parce qu'il y en a des chocs dans la vie, il y a des affaires qu'on n'a pas vu venir. La meilleure préparation, c'est notre intimité avec Dieu. Parce que les circonstances, tu sais, on est dans un monde imprévisible, puis on ne sait jamais ce qui peut nous attendre, mais on peut toujours s'attendre à Dieu. Et quand on est proche de lui, il nous donne la grâce surnaturelle dont nous avons besoin. Je pense d'ailleurs que ça a fait partie de ce que Dieu faisait à travers, tu sais, les années, là, 2020, 2021, 2022, tu sais, là, les années un peu pas trop comme les autres, là. Mais je pense que Dieu a fait un œuvre spécial à travers cette intimité parce qu'on a découvert notre relation, notre identité avec Jésus d'une façon qu'on ne le connaissait pas. Je pense que c'est le secret. C'est Dieu. C'est Dieu, puis c'est ça. Les fameux versets 34-35, on en parlait un peu, Estelle, tantôt, hein? C'est tellement important, je vous donne un commandement nouveau. On ne disait pas les versets en tant que tel, mais l'amour, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Évidemment, ici, c'est pas une idée nouvelle, l'idée de s'aimer les uns les autres, mais la mesure est nouvelle. Comme je vous ai aimé, là, l'exemple ultime de cet amour-là, je l'ai souvent dit, fait que là, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais la croix est ce qui donne la mesure de l'amour, un amour qui va jusqu'au bout. Et c'est d'ailleurs la mesure des authentiques disciples de Christ. Et là-dessus, j'ai retenu deux versets dans le même épître, Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau mettre sous le joug de la servitude. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. La liberté chrétienne, ce n'est pas un prétexte pour la chair. La liberté chrétienne, c'est la liberté d'aimer, la liberté de pardonner, la liberté de souffrir. Et donc, ce n'est pas une occasion pour la chair avec la langue ou les différentes façons que la chair se manifeste, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La liberté de l'esprit, c'est l'occasion de laisser la vie de Jésus et le fruit de l'esprit s'exprimer. Et ça, savez-vous, c'est comment que ça se montre le plus? Et c'est là que la foi est importante, c'est quand Dieu nous appelle à souffrir pour le bien et le péché des autres. Ça, c'est un autre bout de vendeur de mon message. Hey, Jésus nous appelle à souffrir pour le bien et le péché des autres. Mais c'est ça. Tu sais, quand la Bible nous dit qu'il nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces, c'est exactement ça dans le contexte. Parce que 1 Pierre, c'est écrit pour les chrétiens qui souffraient pour Jésus, qui souffraient parce qu'ils étaient chrétiens. Et donc, ça m'amène à conclure avec le troisième point dans les versets 36 à 38. L'humiliation contre l'indifférence. Alors regardez ce qu'on peut lire au verset 36. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Hey, notre fameux Pierre, hein? Là, il parle au nom de tout le monde, c'est sûr. Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Parce qu'effectivement, Jésus s'en allait à la mort, puis là, c'était pas le temps pour Pierre, mais Pierre a effectivement suivi Jésus à la mort. Il a été lui aussi un martyr pour le nom de Jésus. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je maintenant ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. L'humiliation contre l'indifférence. Non seulement Jésus montrait sa gloire avec ce qui s'en venait pour combattre cette indifférence, mais aussi ici avec l'humiliation. Et remarquez que les deux derniers points du message, les points 2 et 3, c'est la solution de Jésus par rapport au problème de l'indifférence. Et ici, notre fameux Pierre est enlacé, il est enfiroppé, il est embobiné avec l'annonce du verset 33. Jésus, là, c'est quand même pas rien ce qu'il a dit, là. Mes petits-enfants, je suis pour peu de temps avec vous autres, puis je m'en vais. Là, Pierre, là, il a stické là. Pour moi, là, je vous aimez les uns les autres, il a dit, attends un peu, c'est pas temps de parler de ça. Là. Où tu t'en vas? Là? Parce que là, il y a deux grandes questions pour Pierre. Le « où », verset 36, puis le « pourquoi », verset 37. OK? Mais au moins, il va à la bonne personne pour en parler. « Hey, où c'est que tu t'en vas? » Puis, « Hey, pourquoi qu'on peut pas te suivre? » Moi, je le comprends, Pierre, là. Je veux dire, c'est normal, tu fais dire de quoi de même, tu veux un peu savoir ce qui se passe, là. Hey, Jésus, tu ne le dis pas, tu es un peu mystérieux sur des grosses déclarations que tu fais, OK? Fait que c'est bon de se mettre à la place de Pierre puis comprendre. Tu sais, on peut être dur des fois, on se demande nous pourquoi. Il aurait juste pu accepter sereinement. Puis, non, excusez-moi, on est ça à sa place, probablement que d'autres façon, on aurait le gros nerf du cours sorti, puis on dirait où, puis pourquoi nous autres avec. Mais c'est intéressant ce qui arrive, parce que bon, avec ici ce qui arrive, Pierre exige une explication. Combien de fois notre exigence d'explication avec ce que Dieu dit, les circonstances, les souffrances qu'il nous envoie, combien de fois, lorsqu'on veut des explications de main, ça nous empêche de recevoir les avertissements du Seigneur? Parce que là, Jésus dit, hey, t'es prêt à... Pierre a dit, je suis prêt à aller à la mort. Je... Ah oui, t'es vraiment prêt? Il a dit, tu vas me renier trois fois. Il l'avertit. Mais ça aussi, je pense pas que ça computait dans le cœur de Pierre. Et c'est vraiment une question de timing, parce que Jésus dit, oui, oui, tu vas pouvoir me suivre, mais pas maintenant. Parce que tu n'es pas prêt. Tu as besoin d'être humilié. J'ai besoin de briser des choses en toi pour que tu sois prêt à être utilisé entre mes mains. Et ça, là, il y a quelque chose vraiment de... Dans tout ce qu'on voit là, Jésus, là, il les aimait. Il voulait faire de quoi avec eux autres? Il allait se servir d'eux pour répandre la bonne nouvelle de l'Évangile, mais il ne pouvait pas prendre les disciples tels qu'ils étaient. Ils étaient trop pleins d'eux-mêmes. Il fallait qu'ils brisent cette confiance en eux. Il fallait qu'ils brisent ses raisonnements. Il fallait qu'ils brisent ses forteresses. Puis quand on voit dans le livre des Actes, là, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit parce que c'était des personnes brisées, ils l'ont toutes fui. Ils ont toutes été dans la confusion puis l'indifférence. Ils ont toutes été brisés, mais remodelés puis préparés pour ce que Dieu voulait faire avec eux autres. C'était tout qu'un prix pareil, là. Moi, je sais pas comment j'aurais réagi à tout ça, mais c'était quelque chose de grand que Dieu faisait. Puis il y avait le timing. Il y avait vraiment le timing. Donc, notre pauvre Pierre, hein, qui lui, il est... mettons que c'est pas le gars quand il n'y a pas de subtilité avec Pierre. Son désarroi, puis sa chute aussi, hein, tiens, il est tombé, bang! C'est lui, il s'est pas juste enfargé un petit peu, oup, de même, là. Il a fait trois culbutes de même, puis là, il était tout plein de poussière, puis c'est comme, tout le monde a vu, tadam! Pierre vient de se planter. Avec Pierre, c'était pas mal l'histoire de sa vie. Avec Pierre, il n'y avait rien de très subtil et pas évident. T'sais, les chuchotages entre Jésus et Jean, là, ça, c'était pas du domaine de Pierre. Là, mais, regardez Pierre par la suite. C'est drôle comment il parle avec Ardiès. Il dit, « Vous avez renié! » Il parle dans le livre des Actes. Puis il leur parlait comme ça, parce que pas parce que lui pensait qu'il était au-dessus de tout ça, mais il peut savoir, « Hey, c'est quelque chose de renier Dieu, puis... » Prenez pas ça à la légère. Puis qu'est-ce qu'il fait? Comme lui a expérimenté la grâce de Dieu, quand il prêche de même en disant « Vous avez renié le saint et le juste », il leur offre l'opportunité de se repentir. Donc c'est un gars exercé. Il n'était pas juste un sermon qu'il leur disait du haut d'un piédestal. C'est ce qu'il avait expérimenté. Puis Dieu l'avait relevé. Puis maintenant, il pouvait dire « Vous avez renié, mais Dieu, il y a sa grâce qui est là, puis repentez-vous. » Et donc, ça l'a vraiment transformé Pierre. Puis je pense même, parce que Pierre nous parle beaucoup de souffrance. Vous lirez un Pierre, là. Pierre a beaucoup souffert, on peut dire, oui, des choses qui étaient infligées par lui-même, mais aussi de par sa confiance en lui-même, et c'était un peu son épine dans la chair. Pierre est un leader naturel, c'est un homme fort, c'est un homme capable. Puis c'était ce que Dieu lui a ramené constamment. C'est pas de ça que j'ai besoin, Pierre. Moi, j'ai besoin de ta faiblesse, j'ai besoin de voir que tu es dépendant, j'ai besoin de voir que tu n'es pas suffisant. C'est ça que je veux utiliser, Pierre. Puis c'est ça qu'on voit de Pierre par la suite. Puis... il y a quelque chose de bon là-dedans, de beau et de glorieux. Et donc, pour terminer, je veux vraiment simplement amener les choses à ce point-ci. Je ne sais pas pour vous, mais tu lis ça, c'est... hey, il se passait vraiment des affaires assez spéciales, là. Mais Jésus, non seulement il offrait son repos, sa paix, on va voir ça, là, que votre cœur ne se trouble du jour. On prend de l'avance, là, verset 1 du chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. On arrive avec des paroles de réconfort, puis tout ça, là, Jésus s'occupait d'eux autres. Mais Jésus s'occupait d'eux autres en se donnant à lui-même, puis en pointant à lui. Je suis là, je vous aime, faites-vous-en pas. Et donc, je ne sais pas les circonstances que chacun ici pense, je ne sais pas si... vous êtes dans une tempête, vous en sortez d'une, ou s'il y en a une que vous ne voyez pas et qui est à l'horizon, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que la grâce de Dieu, elle est là, puis la grâce de Dieu, c'est une personne. Il veut, lui, se donner à nous, puis il est suffisant. Il est bon. Puis tout ce qu'il nous demande, là, c'est pas de performer, là, puis d'être le super-héros de l'histoire, là. C'est de laisser écrire son histoire, puis d'y faire confiance. De soumettre. Dans l'humilité de dire Dieu. Puis c'est ça l'obéissance de la foi. Parce que c'est beau de dire, ah, j'ai mon identité en Jésus, puis ça, mais ça, l'obéissance dans l'humilité, dire, OK, Dieu, je vais arrêter de regimber. Puis je me soumets. Je te fais confiance. J'accepte ce que tu m'envoies. C'était pas l'histoire que j'avais prévue, mais c'est ton histoire, donc c'est une histoire glorieuse. Et une histoire dont je veux faire partie. Puis savez-vous quoi? Si quelqu'un n'est pas sauvé, là, l'histoire commence à la croix. Et laissez Dieu écrire votre histoire. Vous avez écrit votre histoire assez longtemps. Pas même vous êtes tanné. Des échecs à répétition et tout ça. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre vie. Il veut vous sauver, vous délivrer de lui-même, vous repartir à zéro et avoir le pardon de tous vos péchés. Laissez-le rentrer dans votre vie, vous sauver, vous délivrer, puis goûter à sa grâce merveilleuse. Amen. Seigneur, merci pour ce temps ce matin. Dans un lieu très saint, avec vraiment des choses qui... le chapitre 13, il y a un choc, il y a un nombre de chocs aussi par la suite, mais merci que tu étais là, puis tu n'étais que bon et vrai, même envers Judas. Et merci, Seigneur, même avec Pierre, tu l'as averti, tu étais tellement bon avec Jean, tu avais des choses spéciales pour chacun. Et tu es comme ça encore aujourd'hui. On pourrait faire le tour de l'Église et nommer chacun, dire... tu prends soin personnellement de chacun ici. Merci pour ça, Seigneur. On veut s'ouvrir à toi, à tes soins, puis accepter le choc de tes voix, de te laisser écrire l'histoire, puis on veut se soumettre à toi. Pas en regimbant, mais dire, Seigneur, OK, j'arrête de me battre, de me débattre, et je me soumets par la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen.